souvenez de la chanson de Plastic Bertrand, ça plane pour moi. On s'en souvient, mais voilà. Ah, c'est vous qui faisiez les ou sur
la... Oui, c'est ça.
C'est vous. Très bien, Stéphane Delétro. Eh bien, ce matin, on accueille dans CQFD un jeune étudiant de l'EPFL pour qui ça plane, on peut vraiment le dire, dans tous les sens du terme. Anne Bécher, bonjour Anne.
Oui, mais apparemment, c'est pas lui qui a abusé de la fumette qui fait rigoler ce matin. Il va bien.
Lui, il va bien.
Lui, il va bien. Ouais. Ben quand même, hein, une start-up à 20 ans qu'il a déjà vendue à une grosse boîte qu'il a recrutée depuis une semaine pour une histoire de planeur justement et de météo.
Très bien. Si l'on pouvait guérir le diabète, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Une recherche chinoise suscite de grands espoirs.
Oui, les scientifiques de l'Empire du Milieu ont mis au point une thérapie par cellules souches qui a permis à une patiente de se passer de ses injections quotidiennes d'insuline.
Et on aura le regard sur cette nouvelle d'un spécialiste du diabète qui est à Genève en direct dans un quart d'heure avec nous. Après la peut-être un jour guérison du diabète, on va évoquer des guérisons qui, elles, sont considérées comme extraordinaires. Bonjour Isabelle Moncada.
Bonjour.
Les guérisons extraordinaires qui sont au menu du magazine 36.9 ce soir.
Ce sont des histoires d'heureux hasards qui ont permis à des malades de se rétablir alors qu'ils souffraient de pathologies jugées jusque-là incurables.
Et puis enfin, nous allons également accueillir un certain Hippocrate dans cette émission. Bonjour Sarah Dirène.
Bonjour Monsieur Gabiou.
Hippocrate, considéré comme le père de la médecine occidentale.
Oui, il sera jugé samedi accusé d'avoir engendré les défaillances de la médecine actuelle. Et bah oui, hein, on consomme de la médecine, mais est-ce que la santé est une marchandise comme une autre ?
Grosse question, et donc il viendra se défendre, c'est ça, d'une certaine
oui.
manière ?
Oui.
Très bien, on se réjouit de l'entendre. Voilà pour le programme, bonjour et bienvenue à vous.
CQFD, le magazine scientifique et médical de RTS La Première, Stéphane Gabiou.
Pour récolter des données météo et pour faire de meilleures prévisions, on envoie habituellement des ballons-sondes dans l'atmosphère, des ballons-sondes munis de toutes sortes de capteurs concentrés dans une radiosonde. Le souci, c'est que ces radiosondes se perdent dans la nature. Un étudiant de l'EPFL a peut-être trouvé une solution. Son idée, un petit planeur ultra-léger qui ramène la radiosonde à destination, disons à la destination qu'on lui aura indiquée, Anne Bécher.
Oui, et ce jeune étudiant de 20 ans aujourd'hui répond à un vrai souci avec son développement. Je vous dresse le décor pour bien comprendre.
Oui.
Tout partout dans le monde, on balance des radiosondes avec des ballons deux fois par jour dans l'atmosphère pour un total d'environ 600 000 ballons-sondes par année. Hein. Le truc s'élève à près de 35 000 mètres d'altitude avant que pouf, le ballon explose et que la radiosonde retombe n'importe où. Et quand ça retombe, 70 à 80% des fois, ils sont jamais récupérés, ça fait quand même beaucoup de piles de composants électroniques et de plastique éparpillés dans la nature, sans compter que si on retrouvait ces radiosondes assez vite, avant qu'elles ne s'abîment, on pourrait les réutiliser.
Oui, donc, et en effet, ça fait un peu chenille dans le décor, si vous me permettez
oui,
l'expression.
Sauf en Suisse. Pourquoi ? Petit aparté, mais c'est important parce qu'on nous écoute. La Suisse, qui est la championne du monde de la récupération grâce à des chasseurs de radiosondes, une communauté de passionnés qui partent en tout terrain armés d'antennes râteaux et de détecteurs de signaux GPS pour récupérer 75% des sondes qui sont balancées en Suisse, comme si c'était des précieux trésors avant de les renvoyer sagement par la poste, ça c'est bien suisse, et gagner 20 francs. Donc si jamais vous surprenez votre voisin en train de sillonner les champs avec une mouse antenne, non, il ne chasse pas les ovnis et il est parfaitement sain d'esprit. On referme la parenthèse.
Oui, refermons la parenthèse et revenons au développement donc de ce jeune étudiant de l'EPFL.
Qui s'est dit qu'il faudrait pouvoir trouver un moyen pour que la radiosonde rentre toute seule chez elle pour être réutilisée pour une nouvelle mission. Et ce moyen, ce serait un petit planeur ultra léger qui renfermerait donc la fameuse radiosonde qui serait accrochée aussi avec le planeur à un ballon qui le tracte tout là-haut, explosion du ballon et retour à la maison grâce au petit planeur. Ça, c'est pour vous la faire courte.
Très bien. Pour nous la faire longue, ben c'est vous qui allez nous aider. Johan Hadji, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment vous présentez ? Vous avez 20 ans, c'est juste ? Vous avez commencé à travailler sur ce projet à 17 ans au lycée à Grenoble. Et pendant votre année de master à l'EPFL, vous avez fondé une start-up qui s'appelle Air to Home. L'Office fédéral de l'aviation civile et Météo Suisse ont collaboré avec vous. Vous préparez des campagnes de tests avec les services météo d'autres pays. Et puis voilà, hop, vous avez été recruté par l'entreprise saint-galloise Météomatics, premier fournisseur mondial d'informations météorologiques pour qui vous travaillez depuis...
Une semaine.
Oui, une semaine, voilà, c'est tout récent. Qu'est-ce qu'il y a d'indiqué sur votre carte de visite, Johan Hadji? Visite, on dit quoi, ingénieur, vous avez mis géotrouve-tout, entrepreneur, futur millionnaire
Non, à l'heure actuelle, il y a marqué ingénieur. Et j'aime bien que ce soit pas ingénieur software ou ingénieur hardware ou plus spécifique. parce que ce qui me plaît, c'est toucher à beaucoup de choses, en même temps travailler avec du hardware, en même temps écrire du code, faire de la programmation, et puis en même temps venir parler du projet et aider à convaincre plus de monde qu'on a une meilleure solution possible.
Donc,
à
ce
sondage à génique.
Alors, on va revenir à ce petit planeur qui est en réalité un robot planeur. Hein. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? J'allais vous demander de l'amener, mais c'est peut-être un peu compliqué. Allons-y, il ressemble à quoi ?
Alors, faut vraiment imaginer l'image d'un avion que vous avez, sauf qu'à la place qu'il fasse 50 mètres de long, il fait 90 cm de large, et il va peser que 250 grammes. Donc, c'est un tout petit planeur en mousse, comme un jouet un peu, sauf que c'est un jouet qui est capable de revenir depuis la stratosphère, presque l'espace.
Et le matériau ?
Donc, le matériau, c'est du polystyrène, de la mousse, donc comme un emballage de télé, sauf que c'est de la mousse un peu plus technique qui permet de résister aux basses températures et aux efforts
et la couleur
qu'on doit avoir. Et la couleur, pour le moment, il est blanc. Ça permet d'éviter d'impacter les données, ce qui est aussi important pour Météo Suisse et d'autres.
Alors, comment il fait ce petit robot planeur pour se rendre à un point que vous avez défini à l'avance ou après, une fois qu'il a fait son travail, pour revenir à son point de décollage?
Alors, on a tout un tas d'algorithmes, mais si on veut simplifier, donc le planeur, il connaît sa position, il a un GPS, il se rappelle de où il est parti, et donc tout le but de ces algorithmes, ça va être de planifier la meilleure trajectoire, le meilleur chemin, pour malgré les vents qu'il y a dans l'atmosphère qui sont différents à différentes altitudes, réussir à revenir au point de décollage. Le challenge, c'est que les vents, ils sont très forts, et que le planeur, il n'a pas de moteur, et il a une vitesse limite à laquelle il peut voler. Donc il faut parfois prendre de l'avance sur les vents, les anticiper, pour malgré tout réussir à revenir au point de décollage.
Mais donc vous le pilotez depuis la Terre ?
Non, le système il est complètement autonome. Donc à l'intérieur on a un ordinateur de bord qui est programmé pour faire ce qu'il faut. Et puis il y a juste à lancer le planeur comme une sonde classique. Et tout seul, 2h30 après le décollage, il revient atterrir.
Stéphane ? Il peut tenir jusqu'à quelle vitesse justement ?
Alors il arrive à 30 km d'altitude qu'on vole jusqu'à 475 km/h. Parce que ce qui se passe, c'est que l'air il est tellement fin que cette vitesse elle va représenter des forces assez faibles. Donc, naturellement, on vole très très vite à très haute altitude, ce qui permet aussi de revenir.
Quelqu'un d'autre, une question ?
Non, c'est fascinant.
Ouais, c'est
génial.
L'air est très très fin. J'ai pas compris pourquoi l'air est très très fin.
Parce que la densité de l'air, elle va diminuer au fur et à mesure qu'on monte en altitude. Donc, à 30 km d'altitude, il n'y a plus que 5% de la densité, de la pression atmosphérique. Et donc, on vole beaucoup plus vite pour continuer à planer.
Pour le côté écolo, quand même, alors il faut se remettre l'image. Vous avez le ballon, vous avez le planeur, et dedans, il y a la radiosonde. Donc, tout ça monte. À quelle hauteur ça pète ? Déjà, je l'ai dit.
Entre 30 000 et 35 000 mètres d'altitude.
Voilà, tout ça est là-haut. Et tout d'un coup, le ballon pète. Et il se détache du planeur.
Ouais, alors dans l'idéal, souvent, on se détache du ballon avant qu'il ait explosé.
Ouais.
Mais c'est pas un souci s'il explose trop tôt. Et puis, donc, le ballon, il est en latex naturel qui est censé se dégrader dans un certain temps dans la nature. L'idéal, ce serait un jour d'inventer le système magique aussi pour ramener le ballon. Mais pour le moment, on se concentre sur ramener les éléments les plus polluants.
Ouais.
Donc, les batteries, l'électronique et le
ballon, il est moins polluant de toute façon.
Exactement. Ouais.
Alors, la question, elle a été un peu grillée. Comment ça se fait qu'il puisse se retrouver à cet endroit sans se faire bousculer dans tous les sens par la distance, le vent qu'il y a pour redescendre? C'est donc cet algorithme qui calcule tout à la montée pour savoir par où il doit passer pour redescendre, c'est ça?
Exactement. On a une première idée de l'état de l'atmosphère à la montée. Et puis à la descente, en continu, on va réajuster par rapport à ce qu'on mesure pour de vrai, pour compenser les erreurs, la différence, si le vent, elle a changé, et réussir à revenir au point de décollage.
Bon, mais le système a été testé donc une soixantaine de fois en Suisse, dont une dizaine cet été à la station aérologique de Payerne. Le petit planeur s'est posé à chaque fois, tenez-vous bien Sarah, si vous aimez être scotché, là vous allez l'être, dans un périmètre de 15 mètres autour de la cible, ce qui est assez précis.
Wow.
Mais ça s'est passé, il faut quand même le dire, dans des conditions météo plutôt stables. On est en été, on est en vacances, tout va bien, on chill. Mais pas de tempête de neige ou de détracteur échappé d'Azkaban. Donc, qu'est-ce qui se passe si ça se corse un peu ?
Alors, c'est vrai, on n'a pas choisi les dates, mais il se trouve que pendant la campagne avec Météo Suisse, on avait quand même des bonnes conditions. Du coup, pour compenser, ce qu'on a fait, c'est que par choix, on a envoyé depuis des planeurs dans des tempêtes. Donc, l'été, quand il y avait des gros orages, on a lancé 2-3 planeurs spécifiquement pour les faire aller voler dans la tempête. Pour le moment, ils sont revenus à chaque fois, donc va falloir continuer de pousser les limites et de voir où aller. Et c'est aussi le but de toutes les campagnes qu'on va faire cet hiver dans des conditions plus compliquées, de voler dans la neige, de voler dans la grêle.
Mais vous êtes assez confiant là, ça a l'air de...
Alors, il y a toujours des choses à découvrir, mais il y a aussi peu de problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Maintenant, il y a aussi plus de moyens pour faire des développements, donc je suis assez confiant.
Et les données, Johanna G, les données météo récoltées par votre système planeur, sont-elles aussi d'aussi bonne qualité que celles récoltées par ballon?
C'est la grande question. Par le passé, il y a pas mal d'autres personnes qui ont essayé de trouver des alternatives aux sondes, mais ces alternatives, elles n'ont jamais vraiment réussi à remplacer les sondes si elles n'ont pas la même qualité de données que les sondes. Donc c'est ce qu'on a commencé à évaluer avec Météo Suisse. Donc en fait, on a fait des lancements où sous le même ballon, on accroche une sonde classique et une sonde intégrée dans le planeur pour vérifier que les données ne sont pas impactées par le planeur. Et pour le moment, sur les 10 premiers vols qu'on a fait, on n'arrive pas à mesurer un impact. Maintenant, le but, c'est d'en faire plus dans des conditions météo plus variées pour pouvoir confirmer.
Voir
ce
si
qu'on
ça
a
tient
vu.
La route toujours, quoi. Si
exactement.
Ça ramène les bonnes données, quoi. Ok. Vous avez dans le tuyau une autre idée, un petit peu dans ce genre-là, mais avec des parachutes, c'est juste? Vous avez d'ailleurs commencé avec l'idée des parachutes, sauf erreur.
Exactement. Ce projet, il a commencé il y a 4-5 ans avec un système de parachute guidé. Ce qui se passe, c'est que déployer un parachute, un parapente à 30 km d'altitude, là où on n'a que 5% de la densité de l'air, en fait, c'est très très complexe. Et donc la complexité ajoutée, le coût ajouté de ce système, qui était aussi plus gros, eh ben, il empêchait de rendre ça réaliste de l'utiliser partout autour du monde. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un pivot vers ce tout petit planeur en mousse, beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, qui lui peut de manière réaliste potentiellement remplacer les sondes dans le monde.
On n'a pas parlé du coût, ça coûte combien un planeur comme ça? Pour l'instant c'est un modèle de...
Alors l'idéal ce serait de permettre aux services météo d'éviter de jeter des sondes dans la nature tout en réduisant légèrement leur coût par vol. Donc on va être dans un modèle où Météo Suisse va louer le planeur chaque vol pour réutiliser une sonde plusieurs fois, en réduisant légèrement leurs coûts. Mais les coûts de fabrication du planeur, ils ne sont pas spécialement plus gros que les coûts de fabrication d'une sonde
non,
classique.
Non, puis si
parce
tu récupères les radiosondes, tu fais des économies de toute façon.
Complètement, ouais, c'est vrai. C'est bien pensé. Et on se dit quand même que vous allez vous mettre toute la communauté des chasseurs de sondes ici en Suisse, vous allez les mettre à dos puisque vous allez les priver de leur chasse au trésor. N'ayez pas honte.
Je pensais la même chose au début, j'avais assez peur. Mais la réalité, c'est que ces personnes, elles sont surtout motivées de base par l'intérêt écologique, d'éviter que des sondes finissent dans la nature. Du coup, tous les retours qu'on a eus étaient très positifs.
Okay.
Puis la deuxième chose que je peux dire, c'est que la récompense ne sera que plus grande le jour où ils trouveront un planeur qui n'aura pas réussi à revenir.
C'est ça.
Alors c'est rigolo, parce qu'en investiguant ce sujet, je me suis rendu compte que ces ballons étaient des fois mangés par les vaches. C'est quand même un souci.
Ah, oui.
Si on peut éviter ça, c'est vrai?
Oui, exactement.
Très bien. Start-up donc lancée par vous, Johan Hadji, étudiant de PFL, ingénieur, c'est ça que vous avez retenu à mettre sur votre carte de visite. Vous avez développé donc un planeur ultra léger qui permet aux sondes météorologiques de revenir automatiquement au point de lancement. Merci de votre présence ce matin en direct dans les studios de RTS La Première. C'est une belle journée.
Merci, bonne journée.
Merci. En bref, Anne, les volcanologues ne sont en mesure de prévoir une éruption possiblement dévastatrice que quelques jours, voire quelques heures à l'avance, mais les choses changent grâce à de nouvelles découvertes.
Et ce grâce aux observations sur un volcan situé à Hawaï, le Mauna Loa, qui s'est réveillé en 2022. Et c'est à cette occasion que les scientifiques ont remarqué une migration du magma entre deux réservoirs sous sa surface avant l'éruption. L'agitation pré-éruptive indiquait clairement que le magma se déplaçait vers l'intérieur du volcan 2 mois avant l'éruption. Notre étude a permis de préciser d'où, vers où ce magma se déplaçait, explique la volcanologue américaine qui a dirigé cette étude. Ces déclencheurs sont-ils propres à chaque volcan ou existent-ils des processus communs? Ça reste encore à démontrer.
De l'ambre a été découvert pour la première fois en Antarctique. Selon l'Institut Alfred Wegener, aucune découverte de ce type n'avait été faite jusqu'à présent sur ce continent-là.
Ce qui va permettre quoi? De mieux comprendre ce qui se passait pendant le Crétacé en Antarctique, près du pôle sud, il y a 90 millions d'années. L'ambre provient d'une carotte sédimentaire que les scientifiques ont extraite du fond marin lors d'une expédition en 2017 dans la mer d'Amundsen à 946 mètres de profondeur. Décidément, il ne s'agit pas d'un gros bout d'ambre, mais de fragments éparpillés. Mais qui dit ambre dit résine, et qui dit résine dit probablement arbre ou plante. Bref, une affaire à suivre.
Et enfin, avis aux surfeurs et aux surfeuses, on croyait que d'éclairer sa planche de surf attirait les requins. Eh bien, c'est tout le contraire, selon une étude publiée dans la revue Current Biology.
Oui, selon la biologiste Laura Ryan de l'université australienne Macquarie, les planches recouvertes de lumière horizontale brillante sont moins susceptibles d'être attaquées par les grands requins blancs. Pourquoi? Parce que les lumières déforment la silhouette de la planche qui ressemble naturellement sans lumière à un phoque vu du dessous, ce qui la rend moins appétissante.
C'est pas bête, effectivement.
C'est bête,
oui. À suivre dans CQFD. Le diabète, aujourd'hui, on le gère et demain, peut-être qu'on arrivera enfin à le guérir, Stéphane Delétro.
Oui, nous détaillerons une étude chinoise qui reprogramme des cellules souches pour qu'elles produisent de l'insuline.
T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts. Je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra.
Pour moi, c'était Clara Luciani. Son nouvel album sort dans 2 jours, ce vendredi, qui s'appellera Mon sang. Et Clara Luciani qui sera à retrouver sur la scène de l'Arena de Genève. Ce sera le 21 mars prochain.
CQFD sur RTS, la première.
Ce que l'on qualifie de maladie du siècle, le diabète pourrait être prochainement guéri, Stéphane Delétro.
Oui, c'est le grand espoir que suscite la publication il y a quelques semaines des résultats d'une recherche menée par des scientifiques chinois. Ils ont mis au point une thérapie par cellules souches pluripotentes qui a permis à une patiente de guérir de son diabète de type 1. Alors, deux précisions, il s'agit donc de diabète de type 1, soit d'une maladie auto-immune, le pancréas cessant de fabriquer de l'insuline. Et par guérir, il faut comprendre que les taux de sucre dans le sang de la patiente se régulent sans avoir besoin d'injection quotidienne d'insuline. Alors l'espoir est grand pour quelques 9 millions de personnes qui souffrent de diabète de type 1 dans le monde. Il reste maintenant à confirmer les résultats de cette technique qui aujourd'hui est encore complexe et onéreuse.
Bonjour Pierre Mechler.
Bonjour.
Professeur au département de physiologie cellulaire et métabolisme de l'Université de Genève, l'étude suscite beaucoup d'espoir. Est-ce que c'est un espoir justifié selon vous ?
Oui, je crois. Alors, en fait, ça faisait quelques années que c'était un peu dans l'air. On pensait qu'il y avait des avancées dans ce domaine. Il y a plusieurs équipes qui travaillent là-dessus. La recherche se fait par petits pas, mais là, on peut dire que c'est un grand pas en avant qui était pas vraiment attendu de cette ampleur.
Qui cible donc le diabète de type 1. Vous nous rappelez de quoi il s'agit?
Alors le type 1, c'est une maladie auto-immune, donc notre système immunitaire apprend au début de notre vie à reconnaître les cellules qui sont à nous et de celles qui sont pas à nous, comme des bactéries. Et puis il arrive que le système immunitaire se trompe de cible, et dans le diabète de type 1, il prend les cellules bêta, qui sont les cellules sécrétrices d'insuline, comme cible. Ah. Et spécifiquement, dans tout le pancréas, il va s'attaquer à ce pourcent de cellules, mais qui est essentiel à la vie. Mm-hmm. Il y a une destruction spécifiquement de ces cellules sécrétrices d'insuline.
Donc il n'y a plus de fabrication d'insuline, donc ça veut dire qu'aujourd'hui le traitement actuel, en plus il est assez contraignant, il faut s'injecter quotidiennement de l'insuline pour compenser, c'est ça?
Oui, alors c'est un traitement qui est contraignant, malgré tout il a terriblement évolué en une centaine d'années. Au début, on injectait de l'insuline isolée, purifiée de porc. Maintenant, avec les développements de senseurs qu'on peut avoir en continu et de pompes à insuline qui sont éventuellement en boucle, le système est quand même beaucoup plus simple. Il n'empêche que les patients restent appareillés en quelque sorte avec ces appareils qui font ce travail bien mieux qu'à l'époque, mais tout de même, c'est un appareillage.
Alors, si on en vient à cette étude chinoise, l'idée c'est de remplacer ces cellules détruites par d'autres. Les scientifiques travaillent à partir de cellules souches pluripotentes du patient, de la patiente en l'occurrence. Rappelez-nous peut-être que sont les cellules souches dites pluripotentes.
Les cellules souches, on pensait qu'il y en avait à peu près que dans la lignée germinale, celles qui vont faire des spermatozoïdes et des oocytes, mais on sait que dans tous les tissus, enfin pratiquement tous les tissus, on a des cellules qui attendent pour remplacer celles qui meurent. On peut penser à la peau qui se renouvelle en quelques jours. Eh bien, on a des cellules qui sont pratiquement prêtes, qui attendent les signaux pour devenir, pour se différencier, mm-hmm. se transformer pour finalement faire de la peau. Et ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on sait que il est possible de différentes façons de prendre ces cellules et de les dédier à autre chose que à quoi elles pourraient être destinées. Par exemple, au lieu de faire de la peau, tu feras une cellule musculaire ou tu feras une cellule sécrétrice d'insuline.
Mm-hmm. Et donc, alors justement, on va leur dire ça, mais on leur dit comment c'est par un processus chimique qu'on va dire à ces cellules, toi dorénavant tu seras une cellule qui fabrique de l'insuline.
Alors la recherche fondamentale a trouvé les mécanismes en fait génétiques qui participent à cette différenciation, donc on sait assez facilement le faire en faisant des manipulations génétiques, mais s'agissant d'une thérapie cellulaire, on est un peu on n'aime pas trop en faire des modifications génétiques de cellules en modifiant le génome de ces cellules et de les remettre chez des patients chez lesquels on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait passer par la tête de ces cellules. Si vous passez l'expression, c'est typiquement devenir des cellules tumorales. Donc ici aussi, ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a pas eu de manipulation génétique de ces cellules. C'est simplement en les exposant à différents cocktails en fait chimiques qui ne se retrouveront pas eux chez la patiente en l'occurrence, qui ont permis cette transformation, cette différenciation.
Alors ces cellules modifiées ont été injectées dans le corps de la patiente et plus d'une année après cette injection, la patiente n'a toujours plus besoin d'injection quotidienne d'insuline.
C'est ça ce qui est absolument remarquable. Donc en fait, en juin 2023, quelques millions en fait de ces cellules ont été injectées dans le muscle abdominal en fait de cette patiente. Et puis en 2-3 mois en fait, elle a une correction du taux de sucre dans le sang, donc de sa glycémie. Et à partir de là, donc il y a une année, elle n'avait même plus besoin de s'injecter l'insuline qu'elle devait s'injecter depuis une dizaine d'années, puisqu'elle a cette patiente à 25 ans. Et qu'elle avait été diagnostiquée à 14. Et donc, ça fait une année que son taux de glucose est régulé par ses propres cellules qui étaient issues, en fait, de tissus adipeux qui sont devenus des cellules productrices d'insuline et qui, maintenant, régulent sa glycémie tous les jours en continu.
Ça signifie, je ne sais pas si on peut déjà tirer cette conclusion, mais qu'apparemment, le corps ne s'attaque pas à ces nouvelles cellules. Il les laisse tranquilles.
Alors ça, c'est une question qui reste ouverte, surtout s'agissant d'une patiente type 1, c'est-à-dire chez laquelle la perte initiale des cellules bêta était due à une maladie auto-immune. Il se trouve que cette patiente, malgré son jeune âge, a déjà un lourd passé médical et à l'âge de 7 ans avait dû subir une transplantation hépatique, donc on a changé son foie, pour d'autres raisons par ailleurs, et c'est pour cette raison qu'en fait elle est sous immunothérapie. Donc elle a un traitement immunosuppresseur, donc on ne peut pas savoir à ce stade si chez cette patiente le fait qu'il n'y ait pas de rejet de ses propres cellules est lié à ce traitement. Mm-hmm. Mais cette équipe chinoise a maintenant deux autres patients qui sont en cours de traitement similaire.
Voilà, donc il y a, du coup ça fait trois patients. Qu'est-ce qu'on doit encore attendre pour que le tout soit validé et puis qu'on puisse rendre cette thérapie accessible au plus grand nombre pour autant qu'elle fonctionne effectivement?
Alors évidemment, si c'est reproductible, est-ce qu'il y a des spécificités chez cette patiente ou avec une sorte d'alignement des planètes où tout était favorable en fait à ceci? On remarquera qu'elle est jeune, donc est-ce qu'en fait on peut faire avec des cellules souches pluripotentes qui sont d'une jeune patiente? Donc est-ce qu'il y avait des spécificités chez cette patiente qui ont permis cette avancée? Après, c'est quand même une avancée remarquable dans le sens où même s'il y a des ajustements à faire en fonction des patients, je pense qu'on peut prendre la similitude avec la première transplantation cardiaque en 1967. Hein, le patient avait vécu que 18 jours, mais c'était quand même un immense pas en avant pour ce qui était rendu possible dès ce jour-là.
Il y a quand même encore aussi la question du coût, à l'heure actuelle du moins. Ouais.
Oui, alors bon, rappelons quand même que le traitement actuel, c'est des coûts quand même qui sont très importants. Mmh. Ici, évidemment, on est dans une phase exploratoire et de recherche. Donc, il a fallu établir la recette de cuisine, hein, parce que ils ont traité ces cellules avec différents ingrédients. Et si je vous donne le catalogue d'une recette de cuisine compliquée, il suffit de pas mettre tous les ingrédients dans un bol pour que ça donne la bonne recette. Donc, ils ont dû faire un nombre incalculable en fait d'essais pour avoir maintenant la bonne recette. Maintenant que la recette est établie, en faisant des économies d'échelle, on peut très certainement baisser les coûts. Donc probablement que les coûts sont pas gigantesques, surtout si en fait ces cellules vont pouvoir survivre. Alors ça on sait pas parce qu'on a qu'une année de recul. Mmh. Est-ce qu'elles vont survivre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'en sait rien, mais si la durée en fait de survie de ces cellules est suffisamment longue, les coûts peuvent être passablement réduits. D'autant plus qu'on peut chez cette patiente, je pense qu'ils l'ont certainement fait, préserver une partie de ces cellules pour éventuellement une réinjection.
On parle là de diabète de type 1, mais est-ce que le diabète de type 2 pourrait être traité de la même manière?
Oui, alors oui et non, c'est-à-dire que le diabète de type 2, au début de son diagnostic, ne requiert pas d'insuline exogène, donc un apport d'insuline. Mais un diabète de type 2 qui se prolonge et qui se péjore peut avoir le besoin d'avoir de l'insuline. Donc effectivement, dans ce cas-là, ça pourrait aussi être envisagé. Donc type 1, c'est à peu près 9 millions de personnes dans le monde. Tous les diabètes confondus, c'est 500 millions.
Pierre Mechler, cette technique, elle pourrait être utilisée pour traiter d'autres pathologies?
Alors bon, la technique l'approche de thérapie cellulaire, elle s'utilise déjà pour les cellules du sang, donc les cellules hématopoïétiques. Après, on injecte là des cellules en fait qui sont déjà souches. C'est le corps lui-même qui va les différencier. Maintenant, pour appliquer des cellules telles que c'était fait ici pour ces cellules bêta, il y a une approche qui reste encore très expérimentale. C'est pour les cellules cardiaques. Donc quand il y a un infarctus et pour réparer le muscle du cœur, il y a des approches, mais qui sont encore vraiment pas aboutis. Après, il y a des organes où en fait il est dépendant aussi d'une architecture, on pense au rein, où il faut assembler différents types cellulaires pour que ce soit fonctionnel. Et là, c'est encore une étape de plus.
Des scientifiques chinois ont modifié des cellules pour qu'elles produisent de l'insuline. C'est un espoir pour ces 9 millions de personnes dans le monde qui souffrent d'un diabète de type 1. Merci pour vos explications. Pierre Mechler, professeur au département de physiologie cellulaire et métabolisme à l'Université de Genève. Merci d'avoir été en direct avec nous de nos studios de Genève ce matin. C'est une belle journée.
Merci, mais j'aurais toujours ajouté que demain, c'est la journée mondiale du diabète. Et à cette occasion, le centre médical universitaire ouvre ses portes et on peut venir sans inscription.
Ah, magnifique. Bah, vous avez bien fait de rajouter cette précision et ça intéressera, j'imagine, beaucoup de personnes. Dans le canton de Genève, c'est la situation que vous connaissez. Puis peut-être qu'on peut se renseigner parce qu'il y a peut-être d'autres portes ouvertes ailleurs en Suisse romande. Merci beaucoup, Pierre Mechler. Dans un instant, des guérisons extraordinaires, Isabelle Moncada.
Des miracles pour les patients, des énigmes à résoudre pour la science.
On vous retrouve dans quelques minutes. Ce sera dans 3 minutes et 25 secondes pour être précis. Après Keane, qui chante Everybody's Changing. Pour parler de santé à la RTS, il y a CQFD tous les matins entre 10h et 11h et puis régulièrement le mercredi soir, 36.9, le magazine santé donc de RTS1, Isabelle Mancadin. Vous allez ce soir nous raconter des histoires de guérison extraordinaires.
Et tellement extraordinaires qu'elles surprennent même le corps médical. Ce sont les merveilleuses surprises de la biologie qui ont permis à des malades de guérir et de se rétablir alors qu'ils souffraient de pathologies incurables. Ce qu'on aurait autrefois attribué à la magie ou à la force de la prière est aujourd'hui analysé par les scientifiques.
Et une de ces histoires, c'est celle du patient de Genève.
Une histoire qui a fait le tour du monde et la une des journaux scientifiques, celle de Romuald, qui a contracté le VIH tout jeune, c'était autour de ses 18 ans, et l'a vécu normalement grâce aux thérapies contre ce virus.
Et à quel moment son cas devient extraordinaire?
Ça a commencé avec un nouveau problème de santé. En 2018, il développe une leucémie très agressive. Le traitement contre ce cancer du sang, c'est une greffe de moelle.
Ce qui implique de trouver un donneur de moelle compatible avant.
Ouais, et pas n'importe quel donneur. On a découvert dans le monde, 5 cas de patients séropositifs comme lui et leucémiques qui avaient guéri des deux maladies à la fois après une greffe de moelle. On a compris pourquoi. Les donneurs étaient porteurs d'une rare mutation appelée CCR5-Delta-32. C'est cette mutation qui a supprimé le VIH en même temps que la leucémie. Les explications d'Alexandra Calmi, professeure d'infectiologie au HUG et spécialiste du VIH-SIDA.
Dans les autres cas, les patients avaient reçu une greffe de moelle qui avait cette mutation rare, CCR5-Delta-32. Et cette mutation rare, en fait, rend les cellules résistantes au VIH. C'est un peu comme si on ôtait la serrure et que le virus pouvait plus rentrer dans les cellules.
Les médecins ont donc attendu d'avoir un donneur qui porte cette mutation.
Mais pas de chance, il n'y avait pas de donneur compatible avec la mutation. Et comme la leucémie flambait, il fallait agir vite pour lui sauver la vie. Il a donc reçu une greffe de moelle sans cette fameuse mutation. En plus, pas de chance. Il a développé ce qu'on appelle la maladie du greffon contre l'hôte, la GHV.
Et qu'est-ce que ça a comme conséquence?
En fait, on souhaite un peu cet effet du greffon contre les cellules malades de l'hôte, c'est ce qui va éliminer la leucémie. Mm-hmm. Mais si cette réaction est trop forte, elle devient dangereuse parce qu'elle s'attaque alors aux cellules saines et aux organes, ce qui peut être fatal. Romuald a alors dû prendre des médicaments anti-rejet plus puissants que prévu et sans pouvoir les arrêter, alors que normalement on peut les stopper 3 à 5 mois après la greffe. Finalement, il est quand même rentré en rémission de sa leucémie.
Mais comme il est immunosupprimé par les médicaments anti-rejet, la grosse inquiétude, c'est évidemment que le virus du VIH en profite pour réapparaître.
Exactement, ouais. C'est sa crainte et celle évidemment de tous ses médecins. Les mois passent et Romuald fait des prises de sang régulièrement pour vérifier, mais le virus ne réapparaît toujours pas. Et là, évidemment, tout le monde commence à se demander si le VIH n'aurait quand même pas disparu miraculeusement. Pour en avoir le cœur net, les médecins proposent à Romuald de diminuer les doses d'antirétroviraux. On retrouve Alexandra Calmi et son patient.
Avec toutes ces simplifications, la charge virale dans le sang était toujours indétectable. Et à un moment donné, évidemment, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est dans la bonne conjonction pour arrêter ce traitement? Et là, on était dans une insécurité, dans quelque chose que personne n'avait jamais vraiment vu. On faisait des prises de sang fréquentes, on lui disait « oui, il y a de l'espoir, mais enfin, il n'en a quand même pas trop ». C'était très difficile aussi pour Romuald de se positionner par rapport à ce qui était en train de se passer. Mon souci principal, c'était est-ce que cette prise de risque est acceptable pour le patient ? Scientifiquement, c'était intéressant. Mais ça n'a pas d'intérêt que ce soit scientifiquement intéressant si c'est dangereux pour le patient ou si lui le perçoit comme un danger.
Au début, j'avais peur qu'on l'arrête parce que pour moi, c'était une certaine sécurité. Je prenais ces cachets depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Donc du jour au lendemain, on me dit « Maintenant, vous pouvez arrêter votre traitement », je réfléchis assez quand même pour me dire « Je le fais, je l'ai fait ». Mais c'est vrai que pendant pas mal de temps, à chaque prise de sang, j'avais peur que le virus émerge.
Romuald décide quand même de prendre le risque.
Oui, il arrête complètement la thérapie contre le VIH et il se passe l'incroyable. Le virus reste indétectable au fil des prises de sang.
Je pense que toute l'équipe, ainsi que moi, étions surpris. Je pense que tout le monde, vraiment, à ce jour encore, ne s'attendait pas à ça. J'ai encore du mal à réaliser ce qui m'arrive, de me dire qu'à chaque examen sanguin qu'on me fait pour tout contrôler, je reste indétectable. Et à ce jour encore, j'ai du mal à y croire.
C'est une situation extraordinaire. Et elle est devenue extraordinaire au fil du temps. C'est pas un jour on s'est dit, tiens, ça aujourd'hui c'est extraordinaire. Non, c'est devenu extraordinaire avec la pérennité finalement de cette charge virale qui restait toujours indécelable malgré l'absence de traitement.
Et à ce jour, la guérison inattendue de Romuald n'est toujours pas expliquée, c'est ça Isabelle ?
Non, il y a des pistes. D'abord, le donneur de moelle avait des cellules NK, Natural Killer, très robustes. Ce sont des lymphocytes capables de tuer les cellules malades, c'est une des pistes. Ensuite, la maladie greffon-contre-hôte, la GVH, participe peut-être à décimer le virus. Enfin, le médicament anti-rejet que prend Romuald contre cette GVH peut aussi jouer un rôle. Pour les personnes qui vivent avec le VIH, ce cas, même s'il reste pour l'instant unique au monde, porte évidemment l'espoir d'un traitement futur de cette infection, à condition de comprendre ce qui s'est passé pour le patient de Genève, Alexandra Calmi.
J'espère qu'on arrivera à faire des essais cliniques qui permettront de mieux savoir si on peut répliquer Romuald ou le cas de Romuald à des patients différents de lui. Moi, je crois qu'il faut être clair, rien n'aurait été possible sans lui. C'est lui qui a été courageux, c'est lui qui a pris le risque, c'est pas nous. C'est lui qui a pris ce risque-là, c'est lui qui a souffert dans sa chair lors de certaines procédures, c'est lui qui a accepté. Moi, je dirais, c'est lui qui a pris tous les risques. Je lui en suis très reconnaissante. Je pense que beaucoup d'autres personnes diraient la même chose que moi et aujourd'hui, j'aurais juste envie de lui dire merci.
Toute ma vie, on m'a dit depuis l'âge de mes 18 ans, prenez votre traitement. Jamais un jour, je n'aurais imaginé ni même espéré qu'on me dise, vous pouvez l'arrêter. Et ne serait-ce que tous les jours, quand je ne le prends pas, c'est une victoire. Donc, même si elle dure un an, deux ans, trois ans, dix ans, tous les matins quand je me lève et que je n'ai pas à le prendre, c'est une réussite pour moi, une victoire. Sur le combat d'une vie, d'un parcours et sur la maladie.
Oui, c'est vrai que les traitements anti-rétroviraux sont lourds, ils ont des effets secondaires et beaucoup de malades rêvent de pouvoir arrêter, comme Romuald.
Mais on peut évidemment pas leur faire une greffe de moelle, c'est trop dangereux. En revanche, il y a peut-être des mécanismes qui pourraient déboucher sur un traitement, car on n'a toujours ni vaccin ni remède contre le VIH et c'est donc un espoir.
Donnez-nous envie, ma chère Isabelle. Est-ce que vous avez d'autres guérisons extraordinaires que nous pourrons découvrir ce soir dans 36.9 ?
Oui, on verra d'autres histoires de malades qui se sont sortis de pathologies jugées incurables, par exemple d'une bactérie multirésistante ou d'un cancer du cerveau inopérable.
Des cas exceptionnels à découvrir donc ce soir à 20h10 sur RTS1. Le rendez-vous est pris, c'est dans le magazine Santé. Je dois dire extraordinaire magazine. il porte bien son nom aujourd'hui. Enfin, on va lui rajouter cet adjectif.
Merci, l'extraordinaire
magazine Santé 39. Merci Isabelle Moncada. Et on
bonne
se
journée.
Dit exactement bonne journée à ce soir. Attention, dans quelques minutes s'ouvre le procès de la santé, Sarah Diren.
Et oui, la santé est-elle un business comme un autre ?
Où qu'on aille, les vitrines me reflètent, mes entailles, la fugue éternelle. J'y refais, mais les bêtises font les meilleures histoires. Et toi, tu me fais avoir envie des dangers. Et alors, prends l'argent, vas-y, et enfuis-toi, et enfuis-toi. Je démarrais rapide, kiss me.
Sauvage, une chanson de Julie Melletta. Débattre plutôt que se battre, c'est l'idée portée par l'association Disputons-nous qui organise depuis 2021 des procès fictifs avec de vrais avocats. Début novembre, c'était l'agriculture qui était au banc des accusés. Et ce samedi soir, dans le cadre du festival Planète Santé au palais de Beaulieu à Lausanne, c'est Hippocrate qui sera jugé, Sarah Dirène.
Oui, Hippocrate, considéré comme le père de la médecine occidentale et de l'éthique médicale, il est accusé d'avoir engendré les défaillances de la médecine actuelle. Est-elle devenu un business comme un autre? La longue tradition humaniste du soin est-elle menacée? Ce procès fictif se déroulera comme un véritable procès, avec un président du tribunal, des avocats, des experts, le jury, en l'occurrence le public, interviendra dans le débat. C'est le public hein, qui nous dira si l'accusé est coupable ou non. Et peut-être qu'au terme de cette réflexion collective sur des faits, et des valeurs, eh bien, émergera un meilleur système de soins.
Accusé Hippocrate, levez-vous! Bonjour Bertrand Kiefer.
Bonjour.
Vous êtes médecin, théologien, éthicien et accusé donc. Accusé, si je lis le chef d'accusation, accusé d'avoir abandonné vos enfants. Expliquez-nous.
Oui, ben il faudrait demander au procureur d'expliquer parce que non, c'est vraiment vraiment exagéré de dire que j'ai abandonné mes enfants parce que si je n'avais pas existé, si je ne suivais pas depuis 26 siècles mes enfants, la médecine serait pas du tout ce qu'elle est, serait pas du tout ce système très étrange, très bienveillant qui prend en charge la faiblesse des gens, leurs souffrances sans essayer de se retourner contre eux, c'est-à-dire de profiter de leur vulnérabilité. Ce ne serait pas ce système très ouvert que ces hôpitaux, par exemple, qui sont absolument pas des entreprises, excusez-moi, mais des systèmes, des endroits où on accueille les gens, où on ne leur pose pas de questions sur la taille de leur porte-monnaie, mais sur leurs besoins, on s'occupe de ça. La même chose dans les cabinets, les gens se déshabillent, se mettent à nu, mais ils sont respectés, ils confient leur intime, mais cet intime, on le prend pour les aider, on ne le prend pas pour essayer de gagner quelque chose sur ces personnes.
Vos enfants, ce sont donc le monde médical ?
Oui, mes enfants, je dois dire, c'est au-delà des médecins, c'est aussi tous les soignants, c'est tous ceux qui respectent une vision, une éthique, et peut-être même au-delà d'une éthique, une anthropologie, quelque chose comme une approche de l'humain.
Alors vous parlez d'éthique, 24 siècles plus tard, zou, hein, on fait un saut dans le temps, mais 24 siècles plus tard, qu'est-ce qui reste justement de cette éthique d'Hippocrate?
Mais j'ai fait deux choses moi, j'ai séparé les pratiques médicales de la religion, parce que c'était extrêmement religieux, c'était plein de mythes, d'étranges pratiques magiques et de choses comme ça, et je l'ai installé dans une expérimentation, dans un monde, enfin dans une approche beaucoup plus scientifique. Ça c'était d'une part, en premier côté. Et le deuxième côté, c'est que j'ai vraiment mis en place une éthique, un regard sur les patients, leur maladie, un regard très, j'ai envie de dire, très moderne pour il y a 26 siècles, mais qui a beaucoup façonné l'humanité, justement de respect, de bienveillance, de regard sur la dignité, sur les droits. Ça a été extrêmement important, ce double aspect, au fond, de sortir la médecine de la religion et toute l'approche des soins, et en même temps, de mettre en valeur ce qu'est un patient dans sa complexité et dans le respect qu'on lui doit. C'est lui qui est à l'origine de ce qu'on fait, c'est lui qu'on doit écouter, il ne s'agit pas de traiter la maladie, il s'agit de soigner le patient.
Quelle était la place, ou quelle est la place, si je remonte quelques siècles en arrière, la place de la science ?
Encore une fois, la place de la science, elle, c'est vraiment commencer à penser en termes d'expérimentation. On essaie de faire les choses, on essaie de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. On croit plus simplement à des systèmes de malédiction et de bénédiction, à des choses de type religieuse. Vraiment, on installe ça. Et c'est d'ailleurs étrange de voir que maintenant, au XXIe siècle, la science elle-même est menacée, et que c'est aussi étrange de voir qu'il y a un retour du religieux, qu'il y a des demandes vis-à-vis de la médecine qui sont de type religieux de la part de la société. D'ailleurs, c'est peut-être bien une des facettes de l'accusation qu'on essaie de me porter à moi, pauvre Hippocrate, qui est pourtant tout fait juste et qui continue à faire les choses justes. C'est de porter sur moi cette demande religieuse. C'est-à-dire que les gens ne supportent plus la finitude.
On veut l'immortalité, c'est ça. On demande ça à la médecine aujourd'hui.
On demande ça à la médecine. Ouais. C'est un souhait très fort, en fond, et une disparition, en tout cas un effilochement des religions, et on demande à la médecine de jouer ce rôle.
Hippocrate Bertrand Kieffer, votre procès se tiendra lors du festival Planète Santé, on le disait, qui a lieu ce week-end. Planète Santé, c'est quand même, est-ce qu'on peut le voir un peu comme ça? C'est un peu quand même une foire à la santé, un peu comme un comptoir où on aurait voilà, plein d'offres en électroménager, par exemple. Finalement, la santé, c'est un bien de consommation comme un autre aujourd'hui, non?
Oui, attendez. D'après ce qu'on m'en dit, Planète Santé, c'est pas du tout un comptoir. Il y a rien à vendre. C'est vraiment une rencontre où les gens peuvent poser des questions sur leur santé, rencontrer des soignants, enfin, vivre des expériences. Il y a une expérimentation sur le parcours de soins idéal, le système de santé et de soins idéal, par exemple. Mais, alors, cela dit, la santé, est-ce que c'est un bien de consommation? Bien sûr que c'est en train, il y a des déviations, c'est en train de devenir un bien de consommation un peu comme un autre, mais il y a une résistance aussi, justement, de la part de l'éthique. Parce que la santé, ça se consomme pas, en fait. C'est une question d'équilibre. La santé, elle passe par un équilibre dans la nutrition, dans ses comportements, dans l'environnement. Je veux dire, ça sert à rien de consommer toujours plus de trucs, de pilules si on a un environnement pollué, dégradé. Donc, c'est une espèce de mystification de faire penser que la santé est un bien de consommation comme un autre. Alors, ouais. Faut pas mettre ça du côté d'Hippocrate, s'il vous plaît. Hein. Ne mettez pas ça sur les épaules. Là encore, c'est une demande de société à laquelle satisfont en partie certains médecins, mais pas du tout de manière générale.
Oui, ben j'allais dire depuis Hippocrate, c'est-à-dire depuis vous, hein, il y a 26 siècles, il y a quand même un peu du business. C'est-à-dire quand même aujourd'hui, on a des médecins qui sont payés 1 million de francs par année, c'est leur salaire, c'est comme du business, il y a quand même un peu l'appât du gain là derrière, non?
Oui, bien sûr, parce que vous savez, les médecins, c'est des humains comme les autres. Et je vais pas défendre 1 million par an, enfin, je vais pas défendre ça du tout. Mais en même temps, il y a beaucoup de médecins, une immense majorité, qui sont toujours dans une démarche d'aide, de respect, d'accompagnement dans la souffrance. Parce que c'est ça, finalement. Il y a la finitude, tout le monde finit par mourir. Alors, non seulement on doit essayer de guérir les gens, mais après, quand ça marche pas, on doit les accompagner, leur tenir la main, leur trouver des systèmes pour qu'ils aient moins mal, pour qu'ils souffrent moins, les entourer. Et ça continue. Il faut pas dire que ça ne continue pas, mais c'est vrai que ça se fragilise, qu'on va faire quelque chose. Il y a cette demande de consommer aussi de plus en plus la médecine.
Oui, mais c'est-à-dire qu'avant, on allait voir le médecin parce qu'on souffrait. Hein, le médecin cherchait les causes de cette souffrance pour nous soigner. Alors, c'est vrai que des fois, il y avait des difficultés, comme avant, comme aujourd'hui, hein, avec des douleurs ou des fatigues chroniques étaient difficiles. Enfin, les causes étaient difficiles et sont toujours difficiles à trouver. Ce sont des maladies non objectivables. Aujourd'hui, si je débarque chez le toubib alors que je me sens en pleine santé, c'est parce qu'il faut que je me fasse dépister pour un probable ou pas cancer. Bref, C'est-à-dire qu'un facteur de risque, ce n'est pas une maladie. On soigne les gens bien portants. Vous n'êtes pas désemparé, Hippocrate ?
Non, parce que ça fait partie de la science, justement, de cette grande aventure de la médecine qui consiste à se porter sur les causes. Et puis, en se portant sur les causes, on voit que chez tout le monde, il y a des facteurs de risque, il y a des prémices de maladie sur lesquelles on peut agir et sur lesquelles on a intérêt à agir. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas médicaliser l'ensemble de l'existence et que... C'est un grand problème, parce que de plus en plus, on peut faire aussi de l'anthropotechnie, c'est-à-dire on peut modifier le corps, intervenir avec toutes sortes de technologies pour essayer de l'améliorer. Qu'est-ce que ça veut dire, améliorer le corps? Donc il y a beaucoup de dangers, mais je pense, enfin beaucoup de dangers et beaucoup de nécessité de penser éthiquement, de penser quelles sont les limites de ce qu'on doit faire, de ce qui fait sens, de ce qui doit être remboursé. Mais ça n'empêche pas que le mouvement... de se porter de manière plus en plus préventive sur les maladies en s'intéressant aux facteurs de risque et au début des maladies, c'est quand même une bonne chose. Mais je nie pas qu'il y ait une tendance à médicaliser en fait beaucoup trop l'existence dans ce qui se passe actuellement. Mais ça, c'est pas de la faute d'Hippocrate. J'espère quand même qu'on va pas me mettre ça sur le dos.
Il y avait pas de chirurgie esthétique à l'époque d'Hippocrate ?
Waouh ! Non, à part ça, les femmes se fardait déjà à cette époque et s'habillait, mais c'était pas de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, effectivement, c'est justement une anthropotechnie. C'est-à-dire, c'est justement, on commence à intervenir sur notre corps pour le rendre plus beau, pour le rendre plus performant, pour le rendre plus efficient, etc., selon l'idéologie de l'époque qui valorise la jeunesse, la performance, la réussite, enfin, et le jeunisme. Idéologie qui pourrait changer dans les moments futurs, mais, c'est pas la médecine, ça. Et c'est vrai qu'il y a une zone floue et qu'il s'agit de mettre des limites. Et que ce qui est la grande tradition de la médecine, c'est autre chose. Mais que ce qui a été développé comme outil, comme technologie, maintenant, permet d'aller plus loin. Et la question est, jusqu'où est-il bien d'aller plus loin? Jusqu'où est-ce que cela fait partie de l'humain, de l'aventure de l'humanité? Jusqu'où est-ce qu'on est plutôt en train de déshumaniser le monde, de le standardiser en faisant ces choses? Par exemple, la chirurgie esthétique, c'est clairement quelque chose qui standardise les humains, sauf si elle est là de manière réparatrice pour réparer des gros problèmes qui empêchent justement de s'insérer dans le tissu social. Mais si c'est pas le cas, c'est plutôt quelque chose qui rabaisse l'humain. Il y a dans la vision hippocratique quelque chose qui est dans le sens de la grandeur des humains, de leur diversité, du droit qu'ils ont à la différence, justement, en dehors des normes. On les écoute, eux, et on n'essaie pas de les mettre dans des normes de société. Mais on est dans une époque très difficile sur ce plan-là. Et la médecine est vraiment à la pointe de cette époque. Mais s'il y a bien une chose importante, c'est de garder une éthique et de pas mettre, pas couper la tête d'Hippocrate quand il l'a sur le bio, ce serait sympathique.
J'ai l'impression que vous ne serez pas condamné. Oui, mais d'autant plus que vous serez très très bien défendu par vos consoeurs.
Très bien. Le procès qui a donc lieu ce samedi à partir de 18h au Palais de Beaulieu à l'occasion du Festival Planète Santé Hippocrate. Et c'est vous qui l'incarnerez d'une certaine manière, Bertrand Kiffer.
Oui, je l'incarnerai totalement.
Ouais. Merci d'être venu en direct ce matin dans CQFD, médecin, théologien, éthicien. On souhaite bonne chance pour votre procès de samedi.
Merci.
Merci beaucoup. Demain dans CQFD, de quoi sont faits nos souvenirs et comment les fait-on ressurgir? On posera cette question dès 10h.
CQFD. Stéphane Gabiou.
Et puis dans un instant, après les informations, tribu présentée par Julien Magnolet en direct d'Yverdon ce matin. Bonjour Julien.
Bonjour Stéphane Gabiou. Effectivement, en direct d'Yverdon, parce qu'une fois par mois, pendant cette saison, on sort pour prendre un petit peu la mesure de ce qui a changé en 10 ans, vu que l'émission Tribu fête ses 10 ans cette année. Et on va parler aujourd'hui d'un phénomène qui a vraiment explosé ces dernières années. C'est la question de la consommation sur Internet. On se fait désormais tout livrer à la maison, de nos repas jusqu'à nos sous-vêtements. Donc on va prendre un petit peu la mesure des conséquences de cette manière de consommer. Ça sera avec Luca Pataroni.
On parlait de consommation avec Hippocrate il y a quelques instants. On reste dans le sujet d'une certaine manière avec vous. À tout de suite. Voici les infos. Il est 11h sur RTS la première.